Les crises climatiques, alimentaires, économiques et sociales s'accélèrent. Et maintenant, une crise sanitaire. Les questions de la protection de l'environnement et d'un accès local de l'alimentation se posent soudain d'urgence. Nous devons chercher des réponses. Et pourquoi pas auprès des premiers sur le front? Les cultivateurs. Voltaire n'avait-il pas dit dans Candide « Il faut cultiver notre jardin » ? Je suis Agathe Brua et bienvenue dans le podcast « Cultive ton jardin », un podcast de la ferme européenne. Aujourd'hui, rencontre avec un maraîcher passionné et engagé, chercheur et rêveur, Patrice Blandin.
Patrice Blandin, donc je suis originaire de Saint-Père, près de Vézelay, en Bourgogne. Je suis fils et petit-fils d'agriculteurs. Depuis quelques années maintenant, j'ai eu des expériences diverses et variées qui ont dans un premier temps relevé du domaine de l'agriculture en tant qu'aide familiale et puis ensuite en tant qu'agriculteur associé avec mon père. Et lorsque mon père est parti en retraite, j'ai repris la ferme seul. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer des projets plus personnels, à savoir donc la culture des légumes en diversification, en agriculture biologique dès le départ, c'est-à-dire à partir de 1978, également donc la culture de la vigne à partir de 1985. Actuellement, je suis retraité, mais je délivre toujours des conseils pour les gens qui ont des projets, dans la mesure où je pense qu'un parcours de vie est une richesse acquise au cours du temps à force de côtoyer d'autres personnes, et il est normal de rendre ce qu'on nous a donné, ce qui explique que je continue à informer ou à former des gens pour des sujets qui me tiennent à cœur, comme le maraîchage. Donc j'ai fait de l'agriculture conventionnelle au départ, parce que donc c'était dans la tradition rurale locale, c'était les pratiques courantes de mon père, et je n'avais pas assez de recul pour me permettre d'intervenir à un certain point. En revanche, c'est vrai qu'à partir de 1977-78, j'ai commencé, après 2-3 ans de pratique, à essayer d'influer sur le développement de la ferme. Il n'y a pas eu que des réussites, parce que c'est vrai que soigner ses vaches à l'homéopathie, quand les conditions sanitaires ne sont pas réunies, des fois ça provoque quelques déconvenues. Développer des projets comme le projet maraîcher que j'ai démarré en parallèle à partir de 1978, ça n'est pas aussi simple qu'imaginé, à savoir que je n'avais aucune connaissance en ce domaine, et c'était donc de la formation sur le tas, avec des gens qui étaient à peu près aussi compétents que moi, mais qui avaient, comme moi, envie de changer leur mode de vie et pratique. Ce qui a motivé mes changements de comportement, c'était un combat écologique dans les années 70 contre le développement d'un projet de fluorine dans la vallée de la Cure, près du village de Pierre-Pertuis, par le groupe Péchinet. Heureusement, grâce à un certain nombre d'intervenants, nous avons réussi à barrer la route à ce projet qui était un non-sens. Et cette conscience écologique, depuis les années 75-80, elle est complètement restée ancrée dans tout ce que j'ai entrepris. Mes actions ne se sont jamais arrêtées uniquement au fait de produire. Elles avaient toujours un effet autre, c'est-à-dire qu'on ne produisait pas que des biens de consommation, on produisait aussi du sens. « autre exemple qui m'a passionné, parce que quand même, ça a été une bonne partie de ma réussite, c'est les mini-légumes. Parce qu'au début, c'était vraiment raté. Et comment, d'un légume raté, on fait une stratégie ? À savoir qu'aujourd'hui, si tu prends un bouquin de légumes, donc le bouquin à destination de tout amateur qui souhaite s'informer, on dit qu'il faut planter les choux, par exemple, pour prendre l'exemple des choux, à 40 cm l'un de l'autre sur le rang et à 70 cm entre les rangs. Ce qui donne une densité, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, de 25 000 choux par hectare. Moi, je plantais à 250 000 choux par hectare. Ce qui fait que les choux avaient la même durée de vie que celui qu'on cultive aujourd'hui dans un jardin commun, à savoir qu'il lui faut tant de jours avant, entre la naissance et la transplantation, et tant de jours entre la transplantation et la consommation. Et bien là, les miens, ils avaient exactement le même cycle. Sauf qu'ils étaient cultivés à très haute densité, ce qui fait que là où dans une caisse j'aurais pu loger 4 choux, moi j'en logeais 15. Bah, ce qui m'a passionné, c'est qu'ils avaient un aspect relativement sympathique à voir. Ils avaient des usages, puisque à ce moment-là, c'était la grande époque des bouquets de légumes. Eh bien, c'était justement de voir ces choses-là à un autre usage qu'alimentaire. Et ça, j'avoue que c'était quand même relativement sympathique de voir un aspect, voilà. Cette chose, combinée avec mes activités agricoles et de paysage passé, ont fait que je me suis retrouvé à faire un peu de paysage. Et j'ai commencé quelques projets un peu prestigieux, puisque quand même, une chose dont je peux être fier, j'ai un de mes jardins qui est dans les 100 plus beaux jardins de France. Donc c'est quand même pas si mal, tout le monde peut pas s'en vanter. Et j'ai réussi, bien des années plus tard, à faire découvrir à ma fille ce jardin, et elle a quand même été étonnée du résultat. Et j'étais devenu ce qu'on appelle jardinier chez les riches, parce que c'est vrai que mes jardins étaient relativement prestigieux, issus de rêves que seuls les gens qui ont de l'argent peuvent s'autoriser. Un bout du rêve qui est le vôtre, issu de vos voyages, et un bout du rêve de vos clients, mais c'est quand même vous qui leur avez amené les idées. Les légumes faisaient toujours partie de mes projets. Tous mes jardins, y compris en plein Paris, avaient tous un carré de condimentaire et quelques légumes qui n'étaient pas forcément utilisés en tant que légumes, mais pour l'aspect décoratif. Ma sensibilité du jardin, elle est venue d'une demande, qui était une demande de Marc Menot, c'est de lui faire un jardin pour ses clients. Et donc ce jardin pour ses clients, compte tenu du contexte, la proximité de Vézelay, et puis d'une éducation reçue, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, même s'il y a longtemps que je ne pratique plus. Quand on a reçu une éducation chrétienne, on se rapproche de son éducation. Et donc, j'ai parti sur le principe du jardin de simple, parce qu'il se trouve que quelques années auparavant, j'avais fait un travail à l'abbaye de Fontevraud, avec l'école supérieure de paysage d'Angers, l'ENIPP de Angers. Et si vous allez aujourd'hui à l'abbaye de Fontevraud, le jardin de simple tel qu'il est, c'est un jardin que nous avons travaillé avec Jean-Yves Perron, à une époque où je n'étais encore pas considéré comme un jardinier paysagiste. Et donc je me sers de ces bases, et qui sont les suivantes, à savoir que ces bases, elles datent de Charlemagne, donc le capitulaire de Willis qui s'en est suivi, et ce capitulaire de Willis définit les règles du jardin au sein de l'abbaye, qui se décompose en activités donc légumières, vergers, médicinales et cimetières. Puisque l'esprit doit rejoindre le corps à un moment, ou le corps doit rejoindre l'esprit à un moment, ça dépend de quel côté on se place dans la conception du jardin médiéval. Ce jardin médiéval était aussi issu de mes périples à travers la France, et aussi pas que la France, Espagne, Italie, mes voyages. Donc vous commencez par le thym, la sarriette, le laurier, toutes ces plantes que vous connaissez ne sont pas que des condimentaires, sont aussi des médicinales. Pour ce qui concernait le jardin de Marc Menot, il y a un rôle utilitaire en cuisine. Et donc, j'étais parti du principe des carrés, puisque tous les jardins médiévaux étaient organisés sur le principe du carré. Ce qui ne laisse pas beaucoup de liberté au corps, mais on peut en laisser à l'esprit. Mais c'est vrai qu'à partir de l'instant où on met des choses dans un carré, pour s'évader, faut passer à autre chose. Et j'avoue sincèrement que dans un premier temps, ce qui m'avait passionné dans ce projet avec Marc Menot, c'est que nous avions la possibilité d'avoir IBM qui venait nous mettre que je devais créer ce jardin avec un esprit perpétuel, c'est-à-dire que chaque saison apportait son lot de plantes, ses usages avec ses plantes, que ce soit en cuisine ou autre, et nous devions faire un pupitre didactique où les gens, en cliquant sur le carré, auraient su en fonction de la saison
quels étaient les légumes qui y étaient présents et quel était leur usage en cuisine ou autre. Hier est passé, aujourd'hui vivons et demain n'existe pas. Il n'empêche que, tout en se disant que demain n'existe pas, à chaque fois dans ma vie où j'ai entrepris quelque chose, que ce soit vers une réussite ou vers un échec, parce que tout n'a pas forcément fonctionné. Au départ, c'était un rêve, c'est-à-dire l'envie d'aller au bout d'une chose. À savoir que, par exemple, quand j'ai fait des légumes, au départ, je faisais ça parce qu'il fallait équilibrer les comptes de la ferme. Ça n'avait rien à voir avec du rêve. Et puis ensuite, je me suis pris au jeu. Et il fallait aller plus loin, parce que j'avais découvert l'envers du décor. Disons-le tout net, Marc Menot m'a poussé, souvent, à aller chercher un truc ou un autre, parce qu'il en avait besoin, des fois quand il rentrait de ses voyages lointains, parce que lui en avait les moyens à cette époque-là, et qu'il m'envoyait une photo de tel ou tel truc en me disant « il fallait me trouver ça », bon, bah effectivement, je serais pas allé le chercher s'il ne me l'avait pas demandé. Puis après, d'autres après lui, puisque je livrais quand même beaucoup de restaurateurs, j'ai livré pratiquement la moitié des 3 étoiles de France, donc j'ai quand même livré du beau monde. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai, c'était mes rêves qui alimentaient leurs rêves, et c'était plus l'inverse. Si au départ, c'est eux qui m'ont obligé à continuer à alimenter leurs rêves, après, c'était mes rêves qui alimentaient les leurs, parce que c'est moi qui leur disais « tiens, j'ai trouvé ça, ou je vais essayer ça, et si ça vous plaît, je vais continuer ». Ce qui était intéressant, c'est que j'avais trouvé la plante que je cherchais depuis un moment, je l'avais acclimatée, et je m'en servais pour un usage qui n'était pas que le mien, mais qui était un usage collectif. Ce qui me fait rêver, c'est que je m'émerveille de tout. Je veux dire, moi, tout m'émerveille. Moi, une petite herbe qui fait 3 mm sous mes pieds, si je sais pas qui elle est, j'essaie de savoir, alors qu'il y a des milliers de gens qui lui sont passés dessus sans faire attention. Ça peut être le vent, ça peut être l'état des feuilles, ça peut être les arbres, ça peut être les oiseaux, ça peut être le paysage dans son ensemble, puisque quand même, j'ai fait du grand paysage avec les amis urbanistes, donc je suis passé de l'échelle micro à l'échelle macro, et quand je dis macro, c'est à l'échelle de kilomètres carrés. On n'imagine pas autrement qu'avec du rêve, dans la mesure où il faut que notre connaissance soit suffisante pour faire que on puisse transposer ce rêve. Et maintenant, c'est vrai qu'avec les outils qu'on connaît depuis les années 2000, on peut faire imaginer aux gens ce que sera le paysage dans 20 ou 30 ans. Et donc, en partant d'un état zéro, c'est-à-dire l'an zéro, eh bien, on va avoir un jardin qui, si on... un jardin ou un paysage, au bout de 20 à 30 ans, devrait à peu près ressembler à ça. À peu près. À savoir qu'à partir de l'instant où j'estime avoir accompli le plus gros d'un rêve, je dois emmener le rêve plus loin. Parce que je n'ai pas envie de m'arrêter. Un rêve, ça doit continuer. Et donc, et puis après, on y revient. Plus ça va et plus j'accomplis des choses simples. Mais je les accomplis jusqu'au bout. C'est-à-dire là où je les avais laissés en route, à un moment où un rêve en emportait un autre, là, je reviens à l'essentiel.
You might expect to get to choose the coin of your own realm. That is, unless you've studied just how the business goes. For though you man the ship of state and stand boldly grasp her helm, the lines you cross and spears you navigate are not what you suppose. Love, truth, and beauty are all there's ever been to choose. Love, truth, and beauty underwrite all other currencies. Love, truth, and beauty so hard to catch, much easier lose. Love, seven seas. Now you can offer gold or silver just to get across the river, though for the final trip to copper pence will do. And while a soldier you might barter faith for arrows in the quiver, one's home you'll know the price of life had naught to do with you. Love, truth. truth or beauty. That's all there's ever been to choose. Love, truth, and beauty. Underwrite all currencies. Love, truth, and beauty. So hard to catch, much easier to lose. Love, truth, and beauty. Lie over heaven, earth, and seven seas. Now beauty spins your head around. She leads your craft and crew aground, then disappears like morning dew or some imagined ghost.
Une référence, ça s'appelle le cerfeuil bulbeux, qui était quelque chose qui était en train de se perdre. Donc c'est un truc, une petite racine qui ressemble à une petite carotte blanche. Et ce cerfeuil est une bisannuelle, c'est-à-dire qu'on le sème l'année d'avant et on le récolte au mois de juillet suivant. Et ensuite on est obligé de le laisser mûrir pendant plusieurs mois en cave avant de pouvoir le consommer, parce que sinon il n'est pas consommable. C'est un jour, avec cette personne avec qui je travaillais sur le jardin de Simpe de Fontevraud, que je me suis retrouvé au fin fond du Jura, aller chercher dans un jardin paumé une souche oubliée, c'est-à-dire des graines de cette plante, que nous avons semée, parce qu'au départ on fait une sélection qu'on appelle massale. On sème des graines, on garde les plus belles plantes issues de ces graines, on refait des graines de ces plus belles plantes, et ainsi de suite. Et ça prend plusieurs années avant que ça suive son chemin, il faut entre 7 et 15 ans. Et à la fin, vous avez un produit qui ressemble à quelque chose d'homogène et d'à peu près régulier, et ce cerfeuil bulbeux aujourd'hui, vous le trouvez n'importe où en France, et il s'appelle Atlan. Que ce soit en France ou à l'étranger, j'allais toujours à la rencontre d'un producteur qui allait me montrer un truc qui, pour le commun, alors vraiment, allez voir une plante que tout le monde connaît sous le nom de pavot, plus communément appelée Mekonopsis himalayensis, donc originaire de l'Himalaya, de couleur bleue, et qu'au bout de 15 à 20 ans de travail, quelqu'un dont ça n'était pas le métier au départ, dont le mari était médecin, en a fait un Mekonopsis noir. Ça pouvait intéresser que des cinglés qui cherchaient un truc que personne ne connaissait et qui aurait un intérêt que pour quelques privilégiés.
Dans quel pays ?
En France, Normandie. Pas un truc à l'autre bout du monde, en Normandie. Ça venait de l'Himalaya et c'était en Normandie l'histoire, et elle existe toujours l'histoire. Où j'en arrive aujourd'hui, c'est-à-dire là où j'en suis revenu, c'est-à-dire revenir au village, là c'est je reviens à mes racines, là il n'y a pas de doute. Là, à l'heure actuelle, les rêves j'en ai encore, la plupart je les garde pour moi ou je les mets au service d'autres, puisque moi je ne vais plus tellement m'investir dedans, dans la mesure où je veux me consacrer à d'autres rêves, c'est-à-dire les rêves d'humanité, mais humanité pour mes proches d'abord, parce qu'ils ne m'ont pas assez vu pendant que j'étais à mes projets de cinglé. La vie de famille, c'est zéro, hein. Et ça a valu divorce, séparation, machin et compagnie. De revenir de 1000 à l'heure à vivre ici, je remets les pieds dans la terre et je vais au rythme de la nature. Je revis au rythme des saisons. Je revis au rythme du bois qu'on fond pour mettre dans le poêle. Je revis au rythme des légumes qui poussent en fonction des caprices de la nature. Alors qu'avant, j'essayais de les dominer, mais on domine rien. C'est la nature qui vous domine toujours. Mais la seule chose, je crois, importante que m'ait légué mon père, et c'est la plus importante, c'est la valeur d'humanité. Mon père était un humaniste, donc il m'a légué cette valeur d'humanité que chacun, peut-être, me reconnaît. Et ça, c'est le plus grand don que mon père m'ait offert, l'humanité. Il l'exprimait avec ses mots. Il avait relativement des lettres, mais il n'avait jamais été jusqu'au bout, justement, parce qu'il n'avait pas le temps. Il s'était retrouvé englouti dans son image de l'agriculture, et qui était une image très paysanne, hein, profondément paysanne, et qui mérite tout le respect qu'on doit aux paysans. Et donc, lui, il avait vraiment enfoui, au fond de lui, cela, puisqu'il aurait pu être instituteur, mon père. Et il a volontairement raté le concours d'entrée à l'école normale d'instituteur pour rester à l'agriculture avec son père. Donc c'était vraiment une volonté profondément ancrée. Et moi, la preuve, j'ai reproduit le schéma, où dans les années 70, à l'issue de mon service militaire, et pendant cette année de service militaire,
J'ai réfléchi que mon avenir, c'était même pas plombier, puisque dans leur esprit, j'étais plombier parce que c'était un bon métier, que ça allait gagner bien de l'argent. Et donc, moi, j'ai choisi de redevenir agriculteur. Et aujourd'hui, c'est impossible à expliquer. Je ne suis pas revenu agriculteur pour de l'argent. Quand je suis redevenu aide familiale, j'avais 50 francs d'argent de poche par semaine, c'est-à-dire environ 200 francs par mois, là où les gars gagnaient 1000 francs. Quand j'ai quitté en 70 la plomberie, je gagnais déjà 1200 francs par mois. Mais parce que c'était ancré en moi, au même titre que mon père s'était ancré en lui, et qu'aujourd'hui je transmets des valeurs agricoles, alors que je n'ai pas souhaité pour mes enfants qu'ils reprennent derrière moi. Et puis, moi, la seule chose que j'ai à délivrer comme message, parce que je crois que c'est celui-là le plus important, quand on aime, que ce soit des gens ou des choses, savoir dire aux choses ou aux gens qu'on les aime. Et ça, c'est le seul truc le plus important. C'est quand on est vivant et debout qu'il faut dire aux gens qu'on les aime. C'est pas après. Après, c'est trop tard.
Qu'est-ce que tu aimerais dire aux nouveaux agriculteurs ?
J'essaie de leur faire comprendre que c'est un long chemin, que la connaissance, ben, ils se la feront eux-mêmes, et qu'il y aura les réussites et les échecs, qu'ils prendront la mesure du temps comme je l'ai prise, et que c'est à ce moment-là qu'ils verront s'ils ont réussi, s'ils ont échoué dans ce qu'ils ont entrepris, et s'ils y ont trouvé une richesse personnelle. Et d'autre part, eh bien, savoir si, justement, ils ont trouvé autant de félicité que moi, dans tout ce qu'ils entreprendront ou dans tout ce qui reste à venir à entreprendre. Et en même temps, ce que j'essaye surtout, c'est de leur éviter quelques écueils. Les erreurs de culture, à condition qu'ils aient l'intelligence d'écouter, de prendre des notes et puis d'en faire bon usage, puis de les comparer avec d'autres, parce que je n'ai aucune science infuse. Je croise mes connaissances avec celles d'autres avant moi. Mais j'essaye de leur faire gagner du temps. Sache jusqu'où tu peux aller pour que aboutir à ce que tu souhaites faire. Et ne va pas au-delà parce que ça sert à rien. Tu n'obtiendras pas plus de félicité matérielle. En revanche, tu seras peut-être passé à côté de beaucoup de choses autres. Et c'est celle-là aujourd'hui auquel j'attache le plus d'importance. La relation à l'autre ou aux autres. Aujourd'hui, un agriculteur n'a plus aucune fierté à être agriculteur, dans la mesure où tout son revenu est basé sur des trucs complètement abscons, que sont les aides européennes, pour supporter la concurrence mondiale par rapport à un marché planétaire sur lequel il n'a plus aucune maîtrise. Donc, là, il réalise des rêves de gamin, c'est-à-dire qu'il s'achète des jouets, il passe toute sa vie à payer ses jouets, mais il se rend compte que ses jouets ne lui apportent aucun plaisir. Aujourd'hui, il y a quand même 60% des agriculteurs qui vivent avec entre 350 et 500 euros par mois, alors qu'ils ont des centaines de milliers d'euros de charges à la banque. Eh bien, c'est pas un accomplissement, ça. Hein. C'est une stupidité. Et je pense que leurs parents, le plus grand service qu'ils pourraient leur rendre, c'est qu'avant de les laisser s'installer, ils devraient avoir la lucidité de les aider et les guider à essayer de mener un projet cohérent, en valeur, justement, avec la nature et qui les entoure, pour faire qu'ils vivent décemment de leur travail et qui ne servent pas simplement de support à des internationales, lesquelles internationales sont des fois le fruit de leur propre travail. On appelle ça les coopératives agricoles, qui n'ont plus rien de coopératif. Celui qui me dira que le Crédit Agricole est une coopérative, celui-là je lui fous mon pied au cul et mon poing dans la gueule. Et la plus grosse coopérative de France, qui fait plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, elle n'a plus rien de coopératif, c'est une entreprise. Ah ben les derniers projets, c'est justement prouver que la philosophie que j'ai acquise, qui est qu'on peut vivre décemment, pas forcément en ayant à emprunter des centaines de milliers d'euros à la banque et en développant des projets inhumains en agriculture sur des surfaces disproportionnées avec ce qu'un mec entreprendre raisonnablement pour un intérêt économique dont il ne connaît même pas les finalités. Eh bien, c'est prouvé que le développement de ce qu'on appelle les locavores aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui agissent à la micro-échelle de leur territoire, crée autant de liens et d'humanité et de satiété pour les gens qui les entourent que ceux qui se prétendent détenteurs de cette nourriture de l'humanité, qu'elle soit physique ou intellectuelle, au prétexte que, soi-disant, les autres ne peuvent pas accéder. Mais aujourd'hui, c'est le seul message que je souhaite transmettre qui est important, à part le fait de celui que j'ai évoqué précédemment, donc dire aux gens qu'on les aime pendant qu'on est vivant. Et la manière de dire qu'on les aime pendant qu'on est vivant, c'est les aider à construire autre chose, à construire justement ce monde dans lequel on aimerait qu'ils reviennent, c'est-à-dire se contenter de sa satiété, c'est porter ailleurs. Cette manière d'imaginer l'agriculture à échelle planétaire. Parce qu'aujourd'hui, aller faire produire du coton au Burkina Faso à un mec qui ne peut même pas rembourser la fourniture des graines et des produits de traitement qu'on lui a bourré le crâne avec pour faire des t-shirts que vous ne mettrez jamais, qui finiront au pilon parce qu'on en a fait tellement de millions qu'on ne sait pas quoi en faire et lui il n'arrive même pas à en vivre et il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait, et bien qu'on laisse revenir ou produire des haricots verts au Kenya pour que des abrutis à Noël puissent avoir des fagots d'haricots verts du Kenya, et bien aidez-les à vivre sur place avec la bonne nourriture qu'ils savent produire et qu'on leur a retirée parce qu'on leur a fait miroiter qu'ils iraient beaucoup mieux s'ils cultivaient du coton et que nous on leur vendrait les autres éléments qu'ils ne produiront plus sur les surfaces qu'ils ont occupées pour que des imbéciles heureux puissent changer de fringues tous les jours. Et ça, c'est vraiment des trucs qui sont importants à dire, c'est que la manière dont la société capitaliste vous vend l'avenir de l'humanité, elle est tellement hors sol que ces gens-là ne peuvent pas être des guides pour l'humanité. Et donc ce que j'essaye de faire passer comme message, avec quelques millions d'autres, on va essayer, chacun à notre manière, et chacun dans son domaine, d'influer sur tel ou tel aspect des choses, pour que justement les valeurs humaines on revienne un petit peu en deçà par rapport aux valeurs financières qu'on en a fait. Et chacun sait, et peut l'observer régulièrement, que la valeur financière, elle a encore quelques beaux jours devant elle. Et que c'est cette valeur financière qui un jour faudra toucher au cœur, parce que bon, pour les gens qui ne le savent pas, chaque jour que la bourse, qu'une bourse ouvre dans le monde, circule 50 000 milliards de dollars sur des valeurs spéculatives qui n'ont aucun intérêt. Et qui produisent des fausses richesses pour des gens qui ne seront même pas capables de les consommer, qui n'en feront pas les valeurs ruisselantes qui se valent tant, qu'ils se vendent tant de produire, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien laissons-les avec leurs fausses valeurs et construisons une humanité qui va au-delà de cette valeur pécuniaire et qui s'attache plus à la valeur humaine et au sens large de l'humanité. I'd stake my soul and place a bet on love and seek enough to overfill my empty hole. Love, truth, or beauty, that's all there's ever been to choose. Love, truth, and beauty underwrite all human currencies. Love, truth, and beauty, so hard to catch, much easier to lose. Love, truth, and beauty lie over heaven, earth, and seven seas.
C'était Cultive ton jardin, un podcast de la Ferme européenne, enregistré et édité par Agathe Bruat. Je remercie Patrice Blandin de m'avoir reçu et de s'être confié à moi. Vous pouvez suivre la Ferme européenne sur les plateformes de podcast, son blog et les réseaux. À bientôt !